This is scientific. La balado de la science et de la raison.
Épisode 53 pour le samedi 5 juin 2010. Les thérapies cognitives et comportementales. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Vincent Coe, qui est un psychothérapeute spécialisé donc dans les thérapies cognitives et comportementales, les TCC. Et cet épisode sera une introduction à cette approche psychothérapeutique. Nous l'avons évoqué précédemment dans les épisodes consacrés à la psychanalyse, et j'ai pensé que ce serait intéressant de présenter plus avant en quoi consiste exactement ces psychothérapies. Aujourd'hui, donc, dans le balado, j'ai invité Vincent Coe, qui est un psychologue clinicien et qui est un psychothérapeute qui pratique les thérapies cognitives et comportementales, ou TCC. Bonjour.
Bonjour.
Première question, comment est-ce que quelqu'un devient un thérapeute cognitif et comportemental en France ?
C'est pas quelque chose qui s'est produit évidemment du jour au lendemain. En fait, alors moi je suis à la base, j'avais pas une orientation particulière hein, vers ce type de thérapie, de psychothérapie. En fait, comme beaucoup, hein, de psychologues, d'étudiants en psychologie, de gens qui s'intéressent à ce domaine-là, en France en tout cas, hein, dans le monde francophone et en France en plus particulier, je suis d'abord intéressé à la psychologie en faisant la connaissance de la psychanalyse. En fait, comme beaucoup, encore une fois, ça m'est arrivé. Alors d'abord, hein, dans l'enseignement en terminale, hein, puisque nos étudiants, nos lycéens ont tous accès aux textes de Freud et de la psychanalyse en terminale. Bon, moi, j'ai eu un parcours un petit peu après, justement, en philosophie. Après, hein, donc j'ai fait des études de philo et je m'intéressais donc à la psychologie, à la psychanalyse, à la psychologie sociale. Par la suite, bon, j'ai fait un peu des entrechats, c'est-à-dire que j'ai travaillé en association, notamment pour les droits de l'enfant, où je faisais la prévention en ce qui concerne les maltraitances sur enfants, et je continuais évidemment à m'intéresser à la psychanalyse. Alors, avant même, en fait, durant ce temps-là, avant même d'engager mes études en psychologie, ben, j'ai moi-même engagé une psychanalyse pour moi, d'abord. Donc ça a été une première rencontre avec la pratique, hein, de la psychologie, de la psychothérapie à proprement parler, et à ce moment-là, moi, je n'avais pas du tout en tête les thérapies cognitives comportementales, c'est-à-dire que je ne les connaissais pas, j'en avais pas entendu parler. Mais j'avais quand même effectivement lu 2-3 choses à droite à gauche. Mais ce qui est particulier, c'est qu'évidemment en France, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais c'est que le paysage de la psychothérapie hein, est très assez massivement investi hein, par la psychanalyse, qui disait que c'était pas quelque chose du tout pour moi. Ces thérapies, ces TCC, thérapies comportementales cognitives, n'étaient pas du tout visibles pour moi. Et c'est vraiment venu progressivement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord une première chose, qui est une expérience personnelle, hein, que je peux évoquer rapidement. J'avais donc fait cette psychanalyse qui a duré un certain temps, c'est-à-dire 6 ans et demi quand même, et alors c'était tout à fait intellectuellement agréable, hein, j'étais avec quelqu'un de plutôt bien, ça m'apportait, il faut le reconnaître, un certain confort personnel. Par contre, effectivement, les troubles, les choses pour lesquelles j'étais venu, qui étaient des troubles anxieux, hein, pas forcément très graves, mais un petit peu handicapants, ne se sont au cours de cette thérapie jamais vraiment résolus. Donc ça, c'est déjà un élément, une expérience personnelle qui m'avait un petit peu interpellé. Il y avait du confort, mais moi, je n'avançais pas, et c'était quand même un petit peu particulier, d'autant plus que quand moi, j'avais engagé cette analyse, eh bien, en fait, la personne que j'étais venu voir, j'étais venu la voir en lui disant qu'évidemment j'étais intéressé par, on va dire, l'espèce d'aventure un petit peu personnelle, de réflexion en quoi consiste la psychanalyse, mais j'étais aussi venu pour essayer de régler quand même un certain nombre de problèmes. Et cette personne m'avait dit, écoutez, je peux peut-être vous aider, mais on verra. Donc en gros, vous allez peut-être éventuellement trouver une amélioration, mais c'est pas sûr, et puis d'une certaine manière, c'est pas vraiment objectif. Alors j'étais un peu troublé par ça. Et effectivement, au cours de cette analyse, j'ai pas rencontré de vraie amélioration de ce que j'étais venu résoudre. Et il y a donc une petite expérience personnelle, c'est qu'un jour, par hasard, j'ai acheté à la FNAC un livre qui était un livre de développement personnel, en gros. Alors, je l'ai acheté un petit peu à reculons, parce que c'est vrai que la psychanalyse était assez éloignée de ce genre d'approche. Je me suis même un petit peu culpabilisé de le faire. Et ce livre de développement personnel, qui avait d'ailleurs des parties un peu contestables, hein, en soi, quand même préconisait des exercices pratiques pour résoudre les problèmes d'anxiété. À titre d'illustration, il y avait des exercices un peu de relaxation, de contrôle de la respiration, et puis des mises en situation un petit peu pour confronter ses peurs. Et sans trop y croire, j'ai commencé à pratiquer certaines de ces choses. Et en fait, là, j'étais quand même assez positivement surpris. C'est que quand même, en quelques semaines, hein, lors de un mois, deux mois, j'ai un certain nombre de mes symptômes qui ont commencé à s'améliorer assez nettement. Donc ça, c'est une première expérience qui m'avait un peu ouvert à une autre approche que celle de la psychanalyse. Après, cette ouverture, elle est venue bien par l'expérience, une expérience en association où je m'occupais en fait de groupes de parole pour des personnes qui ont été victimes de maltraitance, d'abus sexuels dans l'enfance. Et en fait, dans ces groupes de parole, la plupart des personnes que nous rencontrions étaient suivies en dehors de l'association, soit par des thérapeutes psychiatres, psychologues, et la plupart étaient d'ailleurs dans des thérapies plutôt psychanalytiques, et quelques-unes de ces personnes étaient suivies par d'autres approches, notamment à l'époque, hein, ce qui est une approche qui a été à la mode à partir des années 2000, fin des années 90, c'était le MDR, qui est une variante des thérapies cognitives comportementales, et en fait je m'étais aperçu que ces personnes qui étaient traitées par MDR avaient des améliorations de symptômes qui étaient quand même relativement plus rapide que les autres. Alors ça m'a aussi intrigué et j'ai commencé à essayer d'en savoir un peu plus. Et puis je dirais qu'il y a une troisième chose qui m'a vraiment amené vers les thérapies comportementales au cours de mes études. D'abord, c'est que il y avait un discours un petit peu durant les études en faculté de psychologie sur la psychanalyse qui était très dominant et qui, moi, parfois m'a irrité. Alors ça, je crois que ça vient peut-être un petit peu de ma personnalité, mais peut-être aussi, je pense que j'ai eu la chance, justement, d'avoir fait des études de philosophie avant, que je n'avais pas menées à terme, mais pendant laquelle j'ai eu des éléments un peu de philosophie des sciences, d'épistémologie. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient affirmées en psychanalyse, dans cette approche dominante, qui était très péremptoire, hein, qui ne se prêtait pas à la vérification dans les faits, qui consistait plus à une espèce de grand corpus très littéraire où on réétudiait en permanence la pensée de Freud, du père fondateur, où on réinterprétait tout le temps ses propositions pour un petit peu finalement toujours les justifier finalement, dans des cas cliniques, dans des interprétations et des lectures. Donc ça m'a effectivement un petit peu effectivement posé problème. Et puis surtout, j'ai eu accès au bout d'un moment quand même, dans certains des cours, à la question de l'évaluation des psychothérapies. C'est-à-dire que ce problème de l'efficacité que j'avais rencontré en association auprès des victimes d'abus sexuels dans l'enfance, trouvait là quand même une solution partielle. C'est-à-dire que j'ai appris qu'il était possible, tout simplement, d'évaluer le soin en psychothérapie. Ce que la plupart de mes professeurs d'orientation psychanalytique réfutaient, mais j'avais vu qu'il y avait un certain nombre d'études qui existaient, qu'il était possible quand même de tenter cette démarche, d'essayer de mesurer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le domaine de la psychothérapie. Alors j'étais assez étonné qu'on n'en parle pas beaucoup. Je crois que effectivement une des choses qui l'empêchait, c'est justement que beaucoup de psychologues, je pense, étaient assez effrayés devant cette démarche, parce que ça pouvait mettre en lumière l'inefficacité relative peut-être de certaines approches. Et je me suis aperçu en approfondissant personnellement un peu le sujet, qu'il y avait certaines psychothérapies qui montraient une efficacité qui était tout à fait intéressante, qui était souvent supérieure aux approches classiques qui étaient proposées en faculté, et que ces thérapies, c'était les thérapies comportementales cognitives. Voilà, donc c'est arrivé un peu comme ça, c'est une succession d'événements, de rencontres, et c'est à la fin de mes études que j'ai pris le parti, entre guillemets, de me former aux thérapies cognitives comportementales pour pouvoir les pratiquer ensuite, évidemment, dans le cadre professionnel, notamment en cabinet libéral, où je pratique actuellement.
Sautons dans le cœur du sujet, en quoi consistent dans les grandes lignes les thérapies cognitives et comportementales, et qu'est-ce qui les distingue de la pratique psychanalytique?
Alors, oui, en fait, alors c'est une question à la fois courte, mais c'est difficile peut-être aussi en même temps de tout dire sur la thérapie cognitive comportementale, mais il y a peut-être une définition, justement, je crois, qui est simple, même si elle mérite d'être détaillée après, une définition qui serait la suivante, sur laquelle je pense que la plupart des thérapeutes de cette orientation sont d'accord. C'est-à-dire que les thérapies comportementales et cognitives, c'est en quelque sorte l'application dans le domaine de la psychothérapie de la psychologie scientifique. Je dirais ça, voilà. En quelques mots, c'est ce qu'on pourrait dire pour le définir. Alors c'est peut-être un petit peu rapide, mais je crois que on peut se mettre d'accord autour de ça. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu rapidement à l'histoire même, hein, évidemment, de ces thérapies, puis de la psychologie, notamment au XXe siècle, pour le comprendre. Ce qui peut être important, c'est de noter qu'en fait, dans la psychologie, il y a évidemment un tas de domaines hein, d'application de la psychologie très divers. Ça peut être la psychologie de l'enfant, du développement, la psychologie sociale, la psychologie cognitive, la psychopathologie qui va s'occuper des troubles. Mais il y a aussi des différences qu'on peut noter en termes de méthodes et d'approches. Et c'est vrai que ce qui va caractériser beaucoup les thérapies comportementales, c'est cette approche scientifique qui remonte à peu près au début du XXe siècle, même si on peut trouver des prédécesseurs. À un moment donné, dans la psychologie, il y a deux grandes dominantes, ce qu'on va appeler l'approche mentaliste, qui est une approche où en fait on va essayer de comprendre le fonctionnement psychologique des individus par une forme d'introspection. C'est-à-dire on va se regarder soi-même, entre guillemets, essayer d'identifier ses propres mouvements psychologiques, ses pensées, ses émotions. Et ça a été une tendance très dominante, qui existe encore d'ailleurs, hein, mais qui était une tendance tout à fait dominante au début du XXe siècle, avant d'ailleurs Freud, hein, les philosophes, les moralistes s'essayaient à ce type de psychologie et de compréhension de leurs propres mouvements. Avec évidemment Freud et puis toute la psychanalyse, ça a été c'est évidemment très teinté de mentalisme. Hein, la connaissance qu'on a, qui est revendiquée par la psychanalyse, s'obtient surtout par l'introspection, par un voyage intérieur. Et donc ça, c'est une grande dominante. En fait, la psychologie scientifique, en tout cas au XXe siècle, elle est née justement un petit peu par une forme d'opposition par rapport à ce mentalisme, en essayant d'appliquer en psychologie des méthodes qui, elles, soient plutôt objectives, où on va se fonder sur une préoccupation qui est de pouvoir émettre des hypothèses qui soient observables et vérifiables autrement que par la seule introspection, que par ce seul voyage intérieur, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment la base des thérapies cognitives comportementales. Alors, on pourrait citer quelques auteurs très rapidement, hein, qu'on connaît, que le grand public et qu'on connaît tous, hein, qui ont vraiment mis à plat cette approche. Ces auteurs comme John Watson, comme Pavlov, évidemment, comme Skinner, qui, en fait, se sont préoccupés de ça, c'est-à-dire de faire en sorte qu'en psychologie, on puisse aussi appliquer une démarche scientifique qui est celle qu'on applique dans d'autres sciences, c'est-à-dire d'essayer de pouvoir émettre des hypothèses de telle manière à ce qu'elles soient vérifiables par l'observation, éventuellement par la mesure hein, d'un certain nombre de choses, par la répétition des expériences. Il faut qu'évidemment des expériences soient répétées, qu'on puisse observer à chaque fois la même chose pour qu'une hypothèse soit valable scientifiquement et qui donc ces auteurs ont vraiment apporter cette préoccupation. Et c'est Watson hein, qui, dans les années 20, si je me trompe pas, a vraiment un petit peu introduit ce terme de comportementalisme en se disant pour pouvoir fonder une psychologie scientifique, il faut pouvoir observer quelque chose, et ce quelque chose, ça va être le comportement, c'est-à-dire soit des comportements externes directement visibles, hein, c'est-à-dire le fait d'agir, de parler, donc ça c'était la base, et puis par la suite, d'autres auteurs ont amené d'autres dimensions, par exemple Skinner, mais aussi, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, ce qu'on appelle les cognitivistes, qui ont également dit le comportement, ça peut être aussi des comportements intérieurs qu'on peut pas observer, comme les pensées, les émotions. Mais on peut quand même tenter de quantifier, mesurer, relever de façon méthodique ces comportements intérieurs dans une approche scientifique. Voilà, ça c'est un petit peu la base, et c'est sur ce courant de la psychologie scientifique que sont fondées les thérapies cognitives comportementales.
Donc ça c'est un peu le contexte théorique en fait d'où a émergé les thérapies, ce type de thérapie. Maintenant, en pratique un peu comment ça se passe, il y a des choses qui sont importantes comme la relaxation ou les pratiques d'imagerie, raconte-nous un peu ce genre de choses.
Tout à fait. Alors en fait, ça c'est effectivement l'origine hein, dont on vient de parler, l'origine scientifique de ces psychothérapies. En fait, après, évidemment, ça c'est la base et il faut comprendre que ça s'est beaucoup étendu et assoupli tout au cours du XXe siècle et puis encore maintenant. En fait, alors C'est vrai que les thérapies cognitives conventionnelles se distinguent pas forcément par... les techniques sont importantes, c'est surtout leur approche, encore une fois. L'approche scientifique est importante, et puis surtout, ce sont des thérapies qui sont actives. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment pour le grand public, hein, pour les gens qui ne connaissent pas ces thérapies, c'est vraiment ça qui permet de les distinguer aussi. Ce sont des thérapies, puisque on va parler de thérapies cognitives et comportementales au pluriel, hein, puisque il y a différents courants, des vagues successives qui se sont ajoutées les unes aux autres. Ce sont vraiment des thérapies où on va essayer d'agir sur le concret, dans l'ici et maintenant, pour que les personnes puissent résoudre leurs problèmes. Je voulais peut-être quand même dire deux mots, encore une fois, sur l'origine un peu théorique. On va dire que le noyau dur des théories qu'on utilise dans la thérapie comportementale, c'est ce qu'on appelle les théories de l'apprentissage. Les auteurs dont je parlais tout à l'heure, Pavlov, Skinner, Watson, s'inscrivent tous un petit peu dans cette mouvance des théories de l'apprentissage. Et la notion centrale, en fait, c'est de dire que les comportements, ce qui se passe dans notre vie, que ce soit des comportements normaux ou des comportements pathologiques qui nous posent des problèmes, sont issus d'un certain nombre d'expériences qu'on fait dans la vie, de conditions extérieures qui sont en général des incidents, qui vont conditionner nos façons de réagir par la suite. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on peut comprendre comment agissent les thérapies comportementales. Ce qu'on va faire pour résoudre un problème, pour changer de comportement, c'est essayer de faire un nouvel apprentissage, c'est-à-dire s'exercer à réagir différemment dans les situations, à apprendre peut-être de nouveaux comportements, à réduire les comportements qui nous posaient problème et à apprendre de nouvelles façons de répondre aux situations auxquelles on va faire face. Alors effectivement, concrètement, une thérapie comportementale, alors ce que je voulais peut-être faire, c'est la distinguer en quatre phases, parce que ça va peut-être donner, ça va peut-être plus visible pour les personnes qui nous entendent, mieux comprendre comment ça se passe. En général, il y a quatre phases très importantes dans une thérapie comportementale. La première phase, c'est une phase d'évaluation, c'est-à-dire que un patient, pour être concret, qui va venir en thérapie, on va d'abord avec lui faire le tour vraiment de la situation. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre, d'abord de faire connaissance avec ce patient, c'est-à-dire qui il est, comment est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est seul ou non, quel est un peu son passé, quel métier il fait, quel est son environnement. On va aussi essayer d'évaluer les troubles et les problèmes qu'il rencontre. Donc c'est une première phase, ça a l'air de rien, ça paraît assez logique, mais c'est quand même très important parce qu'il y a beaucoup de psychothérapie au jour d'aujourd'hui. Il y a une grande variété de psychothérapie qu'on peut trouver, entre guillemets, sur le marché de la santé mentale, qui ne pratique pas forcément de façon très rigoureuse cette première phase. Et ça c'est important parce qu'en fait, dans les thérapies comportementales, ce qui est essentiel, c'est de ne pas se lancer à corps perdu dans la thérapie sans avoir un certain nombre de choses observables. On en revient aux critères de scientificité. C'est-à-dire que pour pouvoir savoir si on agit ou non sur quelque chose, il faut pouvoir l'observer, le mesurer, savoir par exemple si un patient qui a des TOC vient vous voir, eh bien il faut d'abord dans un premier temps savoir quand ont lieu ces TOC, à quoi ils ressemblent, combien de fois ils se produisent par jour, combien de temps ça lui prend, par exemple. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand on aura terminé la thérapie, on pourra regarder si ces TOC ont diminué. Si, par exemple, ça lui prenait 3 heures par jour, est-ce qu'on en est à moins que ça? Est-ce que ça lui prend encore 2 heures ou 1 heure seulement? Est-ce qu'on a eu un effet? Donc, il y a une première phase d'évaluation dans la thérapie comportementale qui est très importante pour une question de rigueur, d'honnêteté thérapeutique, pour vraiment pouvoir mesurer les effets de ce qu'on va faire. Dans un deuxième temps, il y a une phase qui est une phase de détermination des objectifs de la thérapie. C'est ce qu'on appelle souvent, dans ce courant-là, le contrat thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs choses essentielles avec le patient. La première, ça va être effectivement de fixer des objectifs. C'est-à-dire de se dire, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de buts dans la thérapie. Et ça, je pense aussi qu'en termes d'éthique, de relations déontologiques avec le patient, c'est très important. Il s'agit d'abord de ne pas promettre des changements miraculeux, d'abord. C'est-à-dire, effectivement, on va essayer d'avoir des objectifs raisonnables. C'est évident qu'une phobie, un TOC ou un état dépressif qui est installé depuis un certain nombre d'années, on ne doit pas pouvoir le résoudre du jour au lendemain. Alors, encore une fois, ça a l'air évident, mais il y a beaucoup de thérapies qui, malheureusement, parfois ne sont pas claires sur les objectifs, qui vont promettre soit des changements très rapides, presque miraculeux. Or, c'est rarement possible et ça peut être facile de flouer aussi le public. Et puis, il y a un autre point, c'est que ces objectifs, donc ils doivent être raisonnables et puis ils doivent être également concrets. Encore une fois, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pouvoir observer, évaluer les résultats d'une thérapie. on va fixer avec le patient des choses concrètes, avec lesquelles il va être d'accord, donc on va en discuter et de se dire, ben voilà, si vous voulez changer, vous voulez vous sentir mieux, c'est quelque chose de bien de vouloir se sentir mieux, mais c'est pas mesurable. Alors qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, pour un patient qui a un TOC, on va regarder le nombre de TOC qu'il a, est-ce que ça diminue? Un patient, par exemple, dépressif, on va regarder les activités qu'il arrive à avoir durant la semaine. Est-ce qu'effectivement il arrive à voir plus de gens, à faire plus de choses? On va éventuellement aussi utiliser, ça c'est autre chose, des questionnaires, des échecs qui permettent d'évaluer un peu l'humeur, l'anxiété, des choses comme ça. Donc on fixe des objectifs qui sont concrets, qui sont matérialisables. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire aussi dans ce contrat thérapeutique, c'est qu'on va se fixer un temps, une certaine durée dans la thérapie, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est qu'on va pas être dans un engagement sans limite, hein. On va se dire, bon ben, on va fixer un nombre moyen, par exemple, de séances, au bout duquel on va se donner rendez-vous, en quelque sorte, pour regarder où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on n'a pas progressé? Est-ce que la personne est satisfaite et elle peut partir? Ou est-ce que ça va marcher et puis il va aller voir quelqu'un d'autre en claquant la porte? Mais en tout cas, on se fixe une limite. Ça, c'est très important aussi pour limiter les effets d'engagement dans la thérapie, parce qu'on sait que c'est des effets qui sont très forts. Notamment, on a l'exemple un petit peu, je dirais, caricatural, parfois, dans certaines psychanalyses, on a des patients qui restent des années en thérapie, sans amélioration. Et ça, je crois que c'est vraiment important aussi de se fixer cette limite, ce garde-fou-là, en thérapie cognitive comportementale. C'est quelque chose qui est vraiment préconisé. Et puis après, on a deux autres phases, que je ne vais pas détailler parce qu'elles sont très variables selon les troubles. On a une troisième phase qui est une phase d'application des techniques, c'est-à-dire qu'on va utiliser différentes techniques qu'on va proposer aux patients pour résoudre son trouble. Alors là, comme vous le disiez un petit peu, on peut utiliser par exemple la relaxation, qui est une technique comportementale de changement de nos réactions face aux événements, qui nous apprennent à contrôler et à gérer les réactions physiques. Par exemple, quand on est phobique face à un danger, contrôler ses réactions physiques, c'est quelque chose qui s'apprend, contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement. C'est quelque chose qu'on peut modifier avec de l'entraînement. On peut apprendre différentes choses, comme par exemple aussi des compétences sociales. Les personnes qui sont phobiques sociales, qui ont des problèmes d'anxiété dans la relation avec les autres, peuvent apprendre à s'exprimer peut-être de façon plus affirmative, apprendre à le faire soit sans fuir ou sans agressivité. Et tout ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre dans le cours de la thérapie. Puis il y a une technique centrale que je vais citer rapidement, qui est ce qu'on appelle en thérapie comportementale l'exposition. C'est-à-dire le fait de s'exposer progressivement à ce qui, en général, nous bloque ou nous fait peur. Les TCC ont vraiment fait leurs preuves pour les troubles anxieux. Et ça, c'est une des techniques thérapeutiques qui est utilisée massivement. C'est cette exposition. Alors, c'est une exposition progressive, c'est-à-dire que souvent, on a entendu des caricatures autour de les thérapies comportementales. On disait que c'était une façon assez cruelle de jeter les gens, par exemple, la phobique, qui aurait peur des araignées. On va tout de suite lui faire toucher une araignée absolument effrayante pour qu'il s'habitue à cette peur, etc. Alors, c'est pas du tout ça. En tout cas, ça se fait beaucoup plus progressivement. Et encore une fois, dans une collaboration avec le patient, c'est-à-dire que les gens, ils vont à leur rythme, et on fixe ensemble une progression de situation qu'on va affronter. Alors, c'est assez simple dans le principe, mais ça fonctionne très très bien. Et si on associe ça à de la relaxation, à également parfois un travail qui va être un peu plus intellectuel, entre guillemets, sur les pensées qu'ont les gens, les pensées négatives qu'on peut avoir en différentes situations vont jouer, bien sûr, sur nos symptômes, sur l'anxiété ou sur la dépression, par exemple, eh bien, on a un ensemble de techniques qui, globalement, révèlent leur efficacité et peuvent amener les gens à résoudre quand même un assez vaste champ de symptômes. Et puis, la quatrième phase, une fois qu'on a appliqué toutes ces techniques, c'est la phase d'évaluation où on va regarder, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a fait. Est-ce que les personnes ont résolu une partie des objectifs qu'on a fixés ensemble? Est-ce qu'elles sont satisfaites ou non? Et en fonction, les personnes peuvent soit s'arrêter si tout va bien, soit éventuellement on va refixer un petit contrat thérapeutique pour résoudre les problèmes qui résideraient encore. Mais en tout cas, on évalue ensemble et on fait un point ensemble sur la façon dont on a avancé dans la thérapie.
Les TCC sont particulièrement connus pour le traitement des phobies, par exemple. Mais en préparant cette interview, je lisais donc une interview que tu as donnée à propos du traitement psychothérapeutique des victimes de viols, des agressions sexuelles et tout ce qui est stress post-traumatique. C'est moins connu, hein, ce genre de, que les TCC peuvent être utiles pour ce genre de troubles. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe et comment tu approches ce genre de problématique?
Oui, tout à fait, en fait. Alors, c'est les thérapies comportementales cognitives, en fait, sont tout à fait utiles pour ce type de troubles. Alors, c'est vrai, en fait, elles sont sans doute moins connues pour ça en France, hein, encore une fois, parce que, bon, je reviendrai pas dessus, parce que vous aviez un très bon interview dans votre balado de Jacques Van Driller, hein, qui parlait du poids de la psychanalyse et donc de son emprise, hein, dans le monde francophone. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, malheureusement, hein, très souvent, les victimes de traumatismes, notamment les victimes, par exemple, d'agressions sexuelles, de viols dans l'enfance, sont orientées vers les thérapies psychanalytiques. Alors c'est vrai que ces dernières années, quand même, les thérapies comportementales ont fait leurs preuves dans le traitement des traumatismes, et ça faisait déjà un petit moment, mais en fait, c'était pas encore très connu, certainement en France, mais elles avaient déjà été utilisées déjà assez systématiquement, par exemple, lors de la guerre du Vietnam, hein, après le conflit donc entre les États-Unis et le Vietnam, il y avait déjà des traitements, hein, des vétérans de la guerre, sur ce mode un petit peu de la thérapie comportementale cognitive. En fait, la façon dont on traite quelqu'un qui a été victime du traumatisme, alors on suit exactement le même plan, hein, que celui que j'ai écrit tout à l'heure, hein, avec ces quatre phases. Ce qu'on va utiliser principalement, c'est une technique qui est qui est baptisée par une thérapeute qui s'appelle Foa, hein, aux États-Unis, qui est vraiment une grande spécialiste du traitement du trauma post-traumatique. C'est une technique qui s'appelle l'exposition prolongée. En fait, il s'agit, pour les personnes qui vivent tous ces symptômes, hein, alors les symptômes du stress post-traumatique, un bref rappel, hein, c'est notamment par exemple la reviviscence, c'est-à-dire le fait que les souvenirs de cette scène qui a été terrifiante pour les gens, hein, où souvent les gens ont cru mourir, ou ont eu l'impression qu'ils allaient être altérés dans leur intégrité physique, eh bien cette scène revient en permanence. Elle revient en permanence sans qu'on ait de contrôle dessus, et dès qu'un élément de l'environnement rappelle un petit peu cette circonstance. Alors pour une victime de viol ou d'agression sexuelle, hein, ça peut être des fois simplement le fait de croiser un homme, hein, par exemple. Ça peut être le fait de passer près d'un lieu qui ressemble à un lieu dans lequel elle a été agressée, ou le fait d'entendre des paroles qui lui font penser à ce qu'on lui a dit à ce moment-là, hein, ou peu après. Plein de choses du quotidien peuvent rappeler ces souvenirs. Et à chaque fois que ces souvenirs reviennent, eh bien, ils sont vécus par la personne comme si elle était à nouveau exactement dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que c'est pas un souvenir vraiment, c'est vraiment effectivement le fait de revivre exactement tous ces symptômes. Alors la façon dont on peut les traiter en thérapie comportementale, cette exposition prolongée, c'est d'habituer la personne très progressivement à réévoquer volontairement ses souvenirs. On fait, par exemple, avec les personnes, une liste, un petit peu, des souvenirs traumatiques. Parfois, il y a eu plusieurs épisodes où il y a eu plusieurs scènes, hein, notamment dans les cas d'agression dans l'enfance. Hein, souvent, malheureusement, ces personnes sont victimes plusieurs fois. Eh bien, on va faire une liste un petit peu de ces souvenirs, et puis on va proposer à la personne, d'abord peut-être d'apprendre certaines techniques de relaxation ou de contrôle de la respiration pour un petit peu avoir un contrôle sur leur réaction physique. Et puis ensuite, avec le thérapeute, on va faire réévoquer à la personne ses souvenirs. Elle va essayer de raconter et de revivre un petit peu par l'imagination ce qui s'est passé dans ces épisodes-là. Alors c'est évidemment très très désagréable pour les personnes, les patients qui font ça, mais en même temps, on le fait dans un cadre d'abord qui est sécurisé, qui est celui du cabinet, avec, en général, on essaie d'établir une relation de confiance ensemble. On a des techniques de contrôle un peu, donc par la relaxation, des techniques de contrôle de l'anxiété qui permettent aussi de ne pas être dans un état qui soit trop difficile. Et puis, également, en fait, on va faire tout ça, comme je le disais avant, progressivement. Hein. Donc on va y aller à un rythme calme, tranquille, de façon à ce que la personne apprenne que l'évocation de ses souvenirs n'est pas en elle-même un danger. C'est-à-dire que c'est souvent le problème, c'est que ces personnes ont intégré une sorte de signal d'alarme intérieur extrêmement fort qui fait que la moindre chose qui rappelle ce souvenir est vécue par la personne comme l'imminence que ça va arriver à nouveau. Et on essaye de, entre guillemets, de réapprendre, de corriger cette information fausse qui s'est installée dans le cerveau, de corriger cette information en lui apprenant que révoquer ses souvenirs très progressivement n'est pas un danger, mais on va au contraire en fait éteindre, pratiquer l'extinction du signal d'alarme très très fort qu'elle ressent en l'habituant à se confronter à ces situations en imagination. Et ça, c'est une technique qui marche relativement bien. Donc ça, on peut le voir à titre de documentation. Hein. Vous savez qu'il y a le rapport INSERM de 2004 hein, qui parle de l'efficacité des psychothérapies. Les thérapies comportementales et cognitives ont un effet qui est tout à fait patent sur ce type de trouble. Pour terminer, juste pour détailler un petit peu ce qu'on fait donc avec ces personnes hein, qui sont victimes de stress post-traumatique, on peut aussi travailler avec elles sur un certain nombre d'autres comportements qui sont des conséquences hein, du stress post-traumatique. Par exemple, les consommations de produits, il y a souvent des addictions. On a également des aspects dépressifs. Et puis souvent aussi, les personnes ont appris, on va dire, des leçons, hein, et ont retenu des règles de vie qui sont souvent très strictes et très qui vont apporter d'autres symptômes dans leur vie. Par exemple, une victime de viol va souvent retenir des schémas cognitifs tels que tout homme est un prédateur, par exemple, ou d'autres, des schémas de culpabilité. Ça, c'est très très fréquent en ce qui concerne les personnes qui ont été victimes, par exemple, d'agressions, maltraitances dans l'enfance. Souvent, ces personnes vont penser que finalement, c'est leur faute. Et donc, on va travailler aussi d'un point de vue cognitif, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser chez ces personnes une appréhension un peu plus rationnelle des événements de vie qu'elles ont vécu, pour essayer de se dégager un peu de ces interprétations très négatives qu'elles ont eues vis-à-vis d'elles-mêmes dans ces événements. Donc voilà, on a tout cet ensemble un peu de techniques et on travaille de cette manière-là. Je voulais préciser aussi peut-être que très souvent quand même, on est très souple hein, dans ce genre de thérapie, surtout avec les victimes de stress post-traumatique. On peut parfois aussi parler de plein d'autres choses, de la vie quotidienne. On alterne très souvent des phases pendant lesquelles on s'occupe du traumatisme de façon assez intense, et puis d'autres phases pendant lesquelles on va travailler autour de la vie quotidienne, des relations actuelles des personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait de façon assez fine, assez avec autant de tact que possible. Je le précise parce que très souvent, hein, dans les personnes qui sont des détracteurs hein, des thérapies cognitives comportementales pensent qu'on a des protocoles de soins qui sont très serrés. Alors c'est souvent vrai quand il s'agit de faire des évaluations et des recherches sur l'efficacité des thérapies, mais en fait dans la pratique clinique, hein, au jour le jour, c'est souvent quelque chose qui est beaucoup plus fluide et qui est moins caricatural que ce qui est décrit dans la littérature en général.
Au début de l'interview, tu as mentionné en passant la technique qui s'appelle EMDR. C'est une technique qui est relativement controversée. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses de cette technique ?
Oui, alors en fait, l'EMDR, c'est effectivement une technique qui a été assez médiatisée hein, ces dernières années pour le traitement des troubles post-traumatiques. Alors en fait, je pense que c'est à la fois un bienfait et puis en même temps, effectivement, il y a eu pas mal de controverses. Alors globalement, ce qu'on peut dire, peut-être deux mots de cette technique. En fait, si on regarde de près cette technique donc qui est baptisée l'EMDR, c'est à peu de choses près la technique d'exposition prolongée dont on vient de parler, c'est-à-dire celle qui est utilisée en thérapie comportementale. Finalement, les grands principes sont très proches, c'est-à-dire il s'agit de permettre aux personnes qui ont été victimes de traumatismes de revivre les événements douloureux dans des conditions un petit peu particulières pour progressivement essayer un petit peu pour dire les choses simplement, pour essayer de liquider la charge d'émotion qui est associée à ces souvenirs. Donc ça se fait dans le cadre d'un cabinet, on s'assoit et puis on utilise une technique qui a donné ce nom hein, à l'EMDR, qui est celle d'un mouvement des yeux. On induit un mouvement des yeux alternatif de droite à gauche, souvent, avec un petit objet aussi très souvent qui ressemble un peu à un pendule, enfin il y en a un aspect un peu folklorique, mais en tout cas qui permet selon hein, les personnes qui, selon les auteurs hein, qui ont mis en place l'EMDR, ces mouvements des yeux permettraient au cerveau, si vous voulez, d'intégrer plus facilement les souvenirs traumatiques. Il y aurait une influence Notamment, il y avait une hypothèse qui était celle que les souvenirs traumatiques seraient entre guillemets bloqués dans un des deux hémisphères cérébraux et que le cerveau globalement n'arriverait plus à traiter ce souvenir. Et ces mouvements des yeux favoriseraient un fonctionnement cérébral qui permettrait vraiment de réintégrer ces souvenirs de façon à ce qu'ils ne soient plus associés à une charge comme ça émotionnelle aussi forte hein, et aussi déstabilisante pour les personnes. Alors en fait, il y a deux choses à dire sur MDR, c'est que bah, premièrement, ça marche. Hein, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, bah, les études d'efficacité qui sont faites montrent que le MDR est une technique tout à fait efficace, aussi efficace à peu près que celles qui sont utilisées en thérapie cognitive ou comportementale. Donc ça a un effet. La deuxième chose, bah, c'est que pour l'instant, les recherches n'ont pas permis de mettre en lumière que c'est vraiment ce mouvement des yeux, hein, qui était un peu la particularité de l'EMDR, qui est vraiment à l'origine de son efficacité. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, si on regarde de près, bah, finalement, l'EMDR et les thérapies d'exposition prolongées du traumatisme, c'est finalement à peu près la même chose. Simplement, peut-être que ce mouvement des yeux, bah, c'est quelque chose qui va, on va dire, peut-être mettre en condition plus facilement. Ça peut peut-être être rassurant pour le patient ou pour le thérapeute. Mais globalement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de preuve que ça joue un effet. Mais enfin, finalement, tout ça n'est pas très important. L'efficacité en elle-même, bah, elle est relativement attestée. Et c'est une thérapie qui est tout à fait intéressante pour les personnes qui sont victimes de traumatisme. Après, il y a peut-être une petite chose à dire, c'est que actuellement, on a vu ces dernières années le MDR être utilisé pour d'autres indications que les troubles post-traumatiques, alors d'autres troubles anxieux, et puis parfois même les troubles douloureux ou d'autres indications. Et pour l'instant, on a très peu de recul sur réellement leur utilité dans ce type de trouble et que ça va peut-être un peu vite. Donc là, il y a des discussions et bah, c'est comme pour toute technique, hein, il faut évidemment être un peu prudent et se demander si là on va pas trop vite. Il faut quand même que les choses soient validées par des recherches cliniques. Hein, et là on en revient, je dirais, à la rigueur hein, que la psychologie scientifique doit réclamer. Mais globalement, c'est quand même des techniques plutôt intéressantes.
C'est un peu toujours le problème que comme la technique montre une efficacité, les gens font une sorte de raisonnement fallacieux et disent bah si c'est efficace, c'est parce que le mouvement oculaire, la théorie élaborée qu'ils ont est vraie, mais en fait, comme tu l'as bien expliqué, la technique peut être efficace pour une autre raison que ce que les gens prétendent. Pour terminer, est-ce que bon bah, pour les auditeurs qui ne connaissent pas les TCC qui viennent de découvrir ça avec toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller un peu pour les aider à aller plus loin, à découvrir ce genre de thérapie?
Ce qui est assez intéressant par rapport à ce type de thérapie, c'est que bah, aujourd'hui il y a une assez abondante littérature et donc qui permet bah, effectivement d'en savoir plus. Alors il y a différents ouvrages hein, qu'on peut trouver donc facilement. Je dirais que la plupart des ouvrages, alors il faut regarder puisqu'il y en a qui sont plus ou moins accessibles, mais la plupart des ouvrages de Jean Cottreau hein, en France, qui était quand même un des grands introducteurs des thérapies cognitives comportementales, permettent d'avoir une bonne idée hein, sur ce que sont ces thérapies. Jean Cottreau, pour faire un bref rappel, hein, qui a officié à Lyon, effectivement a beaucoup œuvré hein, pour leur utilisation aujourd'hui dans le monde de la psychothérapie en France, et il propose plusieurs ouvrages qui permettent de vraiment en savoir plus. Et puis après, de façon très très concrète, pour les gens qui souffrent de différents troubles, il y a toute une série de ce qu'on appelle des self-help, c'est-à-dire c'est des ouvrages qui permettent de s'aider soi-même. Alors ça peut être aussi bien pour des troubles anxieux, hein, comme la phobie sociale, les attaques de panique, que pour la dépression. Également d'ailleurs, il en existe pour les troubles post-traumatiques. On trouve une série d'ouvrages dans le grand public qui permettent d'abord aux personnes bah, de mieux comprendre leurs troubles, puisque souvent c'est des ouvrages bien documentés avec des sources scientifiques hein, sur ce que sont ces troubles anxieux ou dépressifs, et puis avec également donc une petite je dirais des exercices, une forme de un petit peu d'auto-évaluation qui permet aux gens donc de regarder comment eux-mêmes fonctionnent dans le quotidien et d'essayer un petit peu de pratiquer certaines choses qui peuvent les aider très concrètement. Et ça permet bah, d'avoir un peu une idée de ce que sont les thérapies cognitives comportementales. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est une des rares approches hein, quand même en psychothérapie où très souvent on va justement, quand un patient vient vous voir au tout début, une fois qu'on a un petit peu posé un diagnostic sur les troubles, souvent proposer des références aux gens. On va leur donner des listes de listes qu'ils peuvent consulter eux-mêmes, des sites sur lesquels ils peuvent aller se renseigner, et parfois même des adresses d'associations de patients. Vraiment l'objectif c'est que les gens justement soient relativement autonomes, assez rapidement. Hein. On parlait tout à l'heure du problème que peuvent poser certaines thérapies, comme certaines psychanalyses, où les patients vont rester de longues années en thérapie. Un des buts clairement affichés dans la thérapie comportementale, c'est quand même que les patients, au bout d'un moment, retrouvent une autonomie la plus rapide possible. Hein. Le but, ça n'est pas de rester plusieurs années sans thérapie. Le but, paradoxalement, c'est que les thérapies prennent fin dès que c'est possible et dès que les personnes se sentent mieux. Et donc, comme ça, avoir accès à des livres de support, à une littérature sur ce sujet, souvent, ça aide beaucoup. Donc, les gens peuvent aisément, sans problème, consulter ce genre de livre. Alors, j'ai cité quelques noms, hein. Il y a Jean Cottreau, Christophe André. Vous pouvez aller aussi, on peut aller sur le site de l'AFTCC, hein, qui est l'Association Française de Thérapie Cognitive et Comportementale. Et vous avez une liste, il y a une bibliographie, et les livres que le public peut consulter pour éventuellement s'aider soi-même, hein, c'est self-help, sont mentionnés, ils ont une petite astérisque, ça veut dire que là, on peut acheter ces livres sans être un spécialiste, et qu'en général, c'est des lectures tout à fait abordables, qui permettent d'en savoir plus sur les thérapies cognitives et comportementales.
Merci d'être venu sur le balado pour nous parler des TCC.
Et merci, c'était un plaisir. Merci à vous.
Talking skeptically about the supernatural, Righteous Indignation is the podcast that examines extraordinary claims and the people who surround them. Whether related to alternative therapies, conspiracies or the paranormal, we speak to big name skeptics and go head to head with the believers.
To listen, subscribe through iTunes or visit us online at ripodcast.co.uk. Righteous Indignation, talking skeptically about the supernatural.
Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Comme ressource, je voudrais aussi conseiller le balado, donc en anglais, donc pour les personnes qui ont un niveau suffisant en anglais, le balado behaviortherapist.com. qui est donc un balado qui est disponible gratuitement sur iTunes et qui est uniquement consacré aux thérapies cognitives et comportementales. Comme vous le savez, enfin, dans l'épisode que vous venez d'écouter, nous n'avons fait qu'effleurer la surface des TCC. Évidemment, donc le balado behaviortherapist.com va beaucoup plus loin en discutant chaque semaine de traitements spécifiques et de troubles aussi spécifiques. Je dirais que, bon, ils séparent, eux, les épisodes qui s'adressent plutôt à des professionnels, donc à des psychothérapeutes en tant que formation continuée, d'épisodes qui s'adressent plutôt au grand public, pour qui voudraient en savoir plus sur certains types de troubles. Mais de manière générale, je conseille surtout ce balado aux psychothérapeutes qui nous écoutent, ou aux psychologues en tout cas qui ont un intérêt pour les thérapies cognitives et comportementales et qui voudraient aller plus loin dans la réflexion et dans les connaissances sur ce sujet. Le site web, vous pouvez le trouver donc en tapant dans l'iTunes Store Behavior Therapist. Mais sinon, le site web, c'est http://behaviortherapist.podbean.com. Behaviortherapist.com. Je conseille donc ce balado, disons aux psychologues qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur les thérapies cognitives et comportementales, et je le recommande chaudement. La semaine prochaine, ce sera donc l'épisode 54 du balado et ce sera l'anniversaire de ce programme. Cela fera un an que j'ai commencé à réaliser Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Et nous aurons donc un épisode spécial pour fêter cela dignement. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre.
Science is the best tool ever devised for understanding how the world works.
Science is a very human form of knowledge. We are always at the brink of the known.
Science is a collaborative enterprise spanning the generations. We remember those who prepared the way, seeing for them also.
If you're scientifically literate, the world looks very different to you. And that understanding empowers you.
There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality.
We can do through science, and with it, we can improve our lives.
There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality.
The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners.
Scientists love mysteries. They love not knowing.
I don't feel frightened by not knowing things. I think it's much more interesting.
There's a larger universal reality of which we are all a part.
The further we probe into the universe, the more remarkable are the discoveries we make.
The quest for the truth in and of itself is a story that's filled with insights.
There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality.
We can do science, and with it, we can improve our lives.
There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality.
The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners.
From our lonely point in the cosmos, we have, through the power of thought, been able to peer back to a brief moment after the beginning of the universe.
I think that science changes the way your mind works, to think a little more deeply about things.
Science replaces private prejudice with publicly verifiable evidence. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality.
We can do science, and with it, we can improve our lives.